Bonjour Camille.
Bonjour Sandrine.
Merci d'être là, d'avoir pris le temps de venir. Et... Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors, ce matin, je vais vous parler d'un profil qui est le profil du sauveur. Voilà, une manière d'être en relation.
Très bien. Eh bien, nous t'écoutons.
Alors, donc, le profil de sauveur, ça nous renvoie à une manière d'être en relation, de se positionner avec l'autre au sein de la relation d'aide. En fait, c'est le pendant négatif de la relation d'aide. Voilà, une manière de se positionner comme ça, une idée de sauver l'autre. Alors, il y a différents noms de la psychologie qui ont étudié ce profil. Donc là, le sauveur, c'est Carl Gustav Jung qui parle de ce profil en ces termes. Il y a aussi Steve Karpman qui a parlé plutôt du sauveteur. Voilà, mais en gros, ça définit le même profil. Donc ce sujet peut intéresser bien sûr toutes les personnes qui sont dans une relation d'aide, quelle qu'en soit la manière, que ce soit comme accompagnateur, comme aidant, comme thérapeute. Donc s'il est un profil séduisant, c'est bien celui du sauveur. Il est présent dès qu'il est question de s'occuper de l'autre, de prendre part à sa souffrance, de l'aider. Il est actif chez toutes les personnes qui s'engagent personnellement ou professionnellement dans une relation d'aide, de soins, de thérapie ou d'accompagnement. Son aspect lumineux, c'est cela, ouvrir son cœur à la compassion et à l'amour. Son aspect d'ombre, c'est la toute-puissance qui prend possession de l'autre en l'utilisant pour soigner ses propres blessures. Considérer le profil du sauveur nous plonge au cœur de nos motivations les plus intimes à désirer nous occuper des autres. S'il peut être tout à fait tentant de le laisser nous posséder, les enjeux sont risqués. C'est laisser notre inconscient affecter nos actes et nos pensées en salissant nos bons mouvements, en s'aliénant avec l'autre dans un rapport de dépendance mutuelle qui est contraire à nos bonnes intentions premières. Il est donc essentiel de comprendre ce qu'est ce profil du sauveur, comment il fonctionne, comment il se construit et comment sortir de l'emprise de son aspect sombre pour laisser son éclat illuminer l'amour que nous avons pour les autres. Donc, mon propos va se découper en trois parties. D'abord, je vais vous parler du profil du sauveur. Voilà, qu'est-ce qu'un sauveur ? Comment ça fonctionne ? Après, je vous parlerai de la construction de ce complexe du sauveur. Voilà. Et les différentes formes. Et puis, dans une dernière partie, je vous dirai comment s'en sortir quand on est là-dedans. Alors, déjà, le profil du sauveur. Donc, qu'est-ce qu'un sauveur ? Généralement, la notion de sauveur est liée à toute tendance à porter secours, à solutionner les problèmes de l'autre, à le sortir de sa souffrance, de ses angoisses, de sa dépression, à le protéger, à fournir de l'aide pour améliorer, construire, assister. Elle agit dans les deux sens. Sauver l'autre et être sauvé. Nous passons naturellement d'une position à l'autre selon nos besoins et disponibilité du moment. Donc dit comme ça, c'est plutôt bien, mais il arrive que le problème soit plus compliqué. La position de sauveur peut être utilisée sainement. Elle respecte alors à la fois les besoins d'aide et d'autonomie du sauvé et les limites du sauveur. Elle cadre aussi la demande d'être sauvé dans une situation précise et ponctuelle. Voilà, là c'est sain. Mais elle peut aussi être utilisée d'une façon aliénante, c'est-à-dire, aliénante ça veut dire qui crée une dépendance mutuelle, voilà, reposant sur des blessures d'enfance du sauveur qui a besoin de sauver l'autre pour se prouver qu'il vaut quelque chose. Le risque, dans les cas les plus graves, c'est de rentrer dans une situation aliénante aussi bien pour le sauveur que pour le sauvé, de dépendance réciproque, où les trois rôles de sauveur, victime et bourreau sont interchangeables. Je reviendrai un peu sur cette notion après, j'expliquerai. Donc, le mythe du sauveur dans le groupe. Le sauveur étant un profil, alors Carl Gustav Jung parle d'archétype. Donc, c'est une représentation qui est universelle et qui va se retrouver dans toutes les cultures. On en retrouve l'influence aussi bien chez les individus que dans les groupes, dans les sociétés. Au sein d'une communauté, Le mythe du sauveur naît dans un climat d'incertitude, de la peur et de l'espoir, en un processus un peu magique de salut. Dans ces moments de désarroi collectif, le besoin d'être sauvé se projette sur un personnage qui, croit-on, détient la faculté de résoudre les problèmes, que ce soit la défense contre un agresseur, par exemple avec De Gaulle en 40 ou avec Jeanne d'Arc, ou le rétablissement de l'ordre perdu, par exemple avec Napoléon ou avec Pétain en 40, De Gaulle en 58. On attribue au sauveur des facultés exceptionnelles de réflexion, de décision, de remise en cause, d'action, de stratégie. Le peuple s'en remet aveuglément à ses décisions. La croyance fondamentale est que lui seul pourra soulager la terreur du peuple devant l'imminence du chaos en en éliminant la cause. À celui qui est désigné, ou alors qui se désigne lui-même comme sauveur, le groupe attribue une toute-puissance quasi magique et instantanée. S'il reçoit gloire et pouvoir absolu, il est néanmoins lui-même prisonnier d'obligations et de devoirs dont il devra rendre des comptes. Le rôle du sauveur dans la collectivité, outre de la sauver d'un danger extérieur ou intérieur, c'est redonner à celle-ci espoir, force et vigueur. Quand cet objectif est atteint, alors son rôle est terminé. S'il ne peut quitter cette position de sauveur, à cause des circonstances, de la demande d'autrui, qu'il ne veut, peut se passer de lui, il sera alors sacrifié, soit par expulsion, comme ça a été le cas de De Gaulle en 69, ou de Napoléon, ou sacrifié carrément par la mort, comme avec Jeanne d'Arc. Donc peut-être au moment où je vous parle, vous pensez aux dernières élections présidentielles, où certains d'entre nous ont peut-être été pris d'espoir, plus ou moins conscient d'être sauvé par tel ou tel candidat, tel ou tel ministre, tel ou tel gouvernement. Donc je vais vous parler maintenant du processus du sauveur. Le besoin d'être sauvé renvoie toujours à un ressenti d'impuissance, de faiblesse et de vulnérabilité devant un danger défini ou pas. Chercher un sauveur, c'est demander à un autre de savoir pour soi, de prendre pour soi les bonnes décisions et les assumer, dans un moment où on est complètement incapable de le faire. Comme nous l'a bien démontré l'analyse transactionnelle, la situation est triangulaire. Premièrement le sauveur, deuxièmement la victime, et troisièmement le bourreau. Alors la victime pourra être une personne, un groupe, une situation, et le bourreau peut être soit un ennemi clairement désigné ou pas, il peut être aussi une situation interne, ou externe de danger, comme une maladie par exemple. Voilà, mais les rôles ne sont pas figés. Par exemple, en défendant la victime, le sauveur peut devenir le bourreau de celui qui est désigné comme l'ennemi. Il peut à son tour être mis en situation de victime, et la victime, sauvée, devenir persécutrice ou sauveur à son tour. Voilà, les jeux psychologiques rendent la situation d'autant plus confuse que se manifestent toujours des enjeux de pouvoir, de domination et de dépendance. Et la cause de cette confusion est la situation d'indifférenciation dans laquelle nous place le fait de désigner quelqu'un comme sauveur. On lui délègue le pouvoir de combler nos besoins et nos espoirs de satisfaction, alors que ce n'est pas nous. On lui attribue le pouvoir de solutionner nos propres problèmes, de nous libérer de l'angoisse, comme si c'était nous. Mais lui, dans sa position de sauveur, va le faire selon sa propre vision des choses, et non la nôtre. La position de victime demandant à être sauvée est désespérée. Et la position de sauveur est une situation impossible. Être sauveur, c'est tenter d'échapper à la perpétuelle attente que l'autre nous sauve en devenant nous-mêmes, soi-même, celui qui sauve. On lui donne alors ce qu'on aurait voulu soi-même recevoir, c'est-à-dire être sauvé. Donc nous sommes dans une situation de projection réciproque qui maintiennent l'illusion que nous sommes tous une seule et même personne, d'où d'inévitables échecs. Alors, en tant qu'humains, nous ne pouvons sauver personne, et personne ne peut nous sauver si ce n'est nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que cela donne dans la relation d'aide, voilà, dans l'accompagnement, dans la thérapie. Alors, dans une optique jungienne, selon Carl Gustav Jung, l'image de l'aidant, telle qu'elle est conçue dans notre société, voilà, particulièrement celle du thérapeute, repose sur trois archétypes, trois représentations. Donc, il y a l'archétype de la mère, l'archétype du père et l'archétype du sauveur. Voilà, quand on va trouver quelqu'un pour nous aider, un psychologue par exemple, on peut avoir cette image d'un père, d'une mère ou d'un sauveur. Donc l'archétype de la mère se retrouve dans la fonction de contenant, d'accueil, d'empathie, de compassion. L'archétype du père se retrouve dans l'autorité et dans l'exercice d'un certain savoir. Aussi, ça peut être dans un rôle de protecteur. Et l'archétype du sauveur, c'est une sorte de guérisseur détenant un savoir susceptible d'enlever le mal et de garantir la satisfaction des besoins et donc le bonheur assuré. Voilà, comme tout humain, l'aidant, quel qu'il soit, court le danger d'être manipulé, voire possédé par ses archétypes concernés et de se prendre pour ce qu'il n'est pas, oubliant qu'une relation est avant tout l'expression d'une rencontre de sujet à sujet. S'il n'a pas conscience du pouvoir contenu dans l'image de sa profession ou de sa fonction, il peut inconsciemment entretenir ou développer encore plus les projections de sauveur faites sur lui. Voilà, c'est loin d'être rare, surtout en début de relation d'aide. Un être, voilà, il peut imaginer un être possédant connaissance et sagesse, voire des pouvoirs surnaturels, qui va pouvoir donner des réponses et soulager rapidement de toute souffrance. Quand j'accueille des patients dans mon cabinet, lors de la première rencontre, j'écoute leurs demandes et nous définissons ensemble un peu les objectifs du travail qu'on pourra faire ensemble. Et parfois, ça m'arrive de rappeler que je ne suis pas une magicienne. Voilà, quand je vois des grandes attentes, je rappelle que je ne suis pas une magicienne. Donc bien sûr, les personnes le savent, mais dans leur inconscient, voilà, parfois je me dis, il est bon de le rappeler. Et en même temps, il est bon aussi pour l'aidant d'en être persuadé lui-même. Hein. Voilà, de ne pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Le risque pour l'aidant, pris dans un archétype du sauveur, c'est de s'identifier à cette image qui est issue en réalité des potentialités du monde intérieur de celui qui l'aide, du patient. La conséquence en est l'enfermement de ce dernier dans une relation régressive de dépendance et une prise de pouvoir sur lui. Aidant et aidé se perdent alors dans une fascination narcissique réciproque où chacun a besoin de l'autre pour se sentir exister. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. Et la dépendance se joint aussi bien sur le registre de la séduction que sur le registre du conflit. Alors, donc, j'en ai terminé pour ma première partie. Je vais démarrer la deuxième qui s'intitule « Construction du complexe du sauveur ». Alors, la problématique du sauveur renvoie le plus souvent à la petite enfance. Si nous sommes concernés, c'est que nous avons été précocement placés dans un rôle de sauveur vis-à-vis de l'un de nos parents, voilà, ou probablement. Il est possible que nous soyons enfermés dans un conflit de loyauté qui fait que nous reproduisons les mêmes comportements dans nos investissements adultes. Alors, la loyauté, c'est un comportement de fidélité inconditionnelle aux règles inconscientes de la famille qui assigne à chacun une place et une fonction. Si le lien est sain, les positions réciproques vont être souples et les formes de loyauté pourront évoluer naturellement avec le temps. C'est le changement des relations parents-enfants quand ceux-ci deviennent adultes, par exemple. Mais si le lien est perverti par de mauvais positionnements, par exemple si on a eu des parents très infantiles, un enfant qui est responsabilisé précocement ou qui est désigné carrément comme le rebut de la famille, s'il y a des non-dits, s'il y a des secrets de famille, voilà, toutes ces manières dont le positionnement pourrait être perverti, alors la loyauté est confuse, figée dans une forme pathologique qui empêche toute individualisation et tout investissement extra-familial. Les relations sont inscrites dans des formes malsaines, complètement inconscientes, où tout le monde souffre et en même temps que tout le monde entretient. Alors, vous vous demandez certainement comment et pourquoi ça se met en place. Donc, le nouveau-né se trouve dans une situation de vulnérabilité totale et absolue, puisque son existence dépend de la qualité de soins dispensés par son entourage. À tout moment, dès que ses besoins, qui à cet âge-là sont fondamentaux, sont frustrés sur un plan ou sur un autre, il est confronté à une angoisse d'anéantissement effroyable. Le fait d'avoir un parent très immature ou en très grande souffrance, et donc dans l'incapacité d'être un parent suffisamment bon, selon le terme de Donald Winnicott, cela le met dans une insécurité mortifère. Et pour survivre, le bébé doit prendre en charge son parent pour le rendre capable d'assurer sa tâche et ainsi rétablir un minimum de sécurité. Il s'inscrit alors dans une obligation de combattre l'angoisse de l'autre, ou sa dépression, ou ses blessures, pour l'aider à surmonter sa propre angoisse de mort. Il s'agit de sauver l'autre pour être soi-même sauvé. Se développe alors une grande intuition, orientée vers les besoins et désirs de l'autre, ainsi qu'une très grande sensibilité à sa souffrance. La compassion se développe, refoulant toujours plus profondément le sentiment d'insécurité et l'angoisse qui en découle. L'enfant et ses besoins s'effacent devant la nécessité de combler les failles narcissiques du parent concerné et de lui éviter toute souffrance. Le bénéfice initial, qui est de rendre son parent suffisamment bon pour lui, s'efface également et l'enfant trouve peu à peu sa raison d'être dans l'apaisement et le bien-être de l'autre, s'éloignant de ce qu'il est réellement, lui. Il ne rencontrera sa propre personnalité que dans ce que le monde lui renverra. Mais ce faisant, l'enfant se met dans une position dont il n'a ni les moyens, ni la force, ni la maturité. De plus, il n'est pas à la bonne place en tant qu'enfant. Le processus naturel généalogique est inversé. Il est pris dans une situation de double lien, c'est-à-dire l'obligation de réussir une mission qui est de toute façon impossible. Il tente quand même l'exploit en s'accrochant à d'improbables sentiments de réussite, se relevant à chaque fois un peu plus blessé des inévitables échecs, s'accrochant envers et contre tout, car il ne peut cesser d'y croire. D'ailleurs, il n'a pas le droit de lâcher. Alors cet enfant sauveur peut prendre différentes formes. Pour sauver son parent, vécu comme victime et en souffrance, l'enfant va jouer le rôle dont celui-ci a besoin, quel que soit son caractère et sa personnalité. La première forme que ça peut prendre, c'est la fonction de narcissisation. Voilà, ce sera un enfant dont on est fier, qui fait tout bien, qu'on montre en exemple. Il porte la lourde responsabilité de guérir les blessures de son parent et son comportement irréprochable fait sa fierté. L'enfant n'est en contact qu'avec ses désirs, se coupant de ses propres besoins. Il fait tout parfaitement, et d'ailleurs il ne fait que ce qu'il est sûr de réussir, craignant les conséquences d'un reproche ou d'un regard de parent mécontent. Dans ce profil de narcissisation, le parent est en position haute par rapport à l'enfant, et le duo fusionnel entre les deux est bon, tout le reste du monde est mauvais et vécu comme persécuteur. Voilà. Alors il y a un deuxième profil qui est où l'enfant sauveur a une fonction cette fois de mauvais objet, donc c'est le contraire. L'enfant est identifié à la partie noire du parent qui ne peut se sentir bien que s'il est dans le rôle du parfait, de l'irréprochable, voire du saint, à supporter un enfant pareil. L'enfant est ressenti à la fois comme persécuteur, il incarne tout ce que le parent déteste, et à la fois comme le sauveur. Tout ce que l'enfant fait est mal, même ses bons aspects sont tournés en dérision ou interprétés négativement. Malgré ses tentatives de montrer qu'il n'est pas ce mauvais-là, son ambivalence fait qu'il échoue toujours. Et même s'il réussit certaines choses, ça ne changera rien à son sentiment personnel de ne rien valoir et de ne jamais être reconnu. Alors, dans cette forme d'enfant sauveur, le parent est également en position haute. Le bon et le mauvais sont partagés entre deux personnes. Donc le parent est identifié au bon et l'enfant au mauvais. Alors il existe une troisième forme où l'enfant sauveur a une fonction de protection. Il s'agit d'éviter que le parent se confronte à des choses trop douloureuses, qu'il serait sans doute incapable de gérer. Le protéger contre les agressions ou les situations difficiles, prendre sur soi la violence de l'autre parent, rester longtemps bébé pour que maman continue à se sentir utile dans son rôle de mère, ne pas aller au-delà d'un certain niveau d'études pour que papa ne se sente pas dépassé, etc. Donc dans cette forme, le parent est en position basse, il est vécu comme faible et incapable de prendre soin de lui, mais néanmoins, tout tourne autour de lui. Alors, je vais vous parler maintenant de la vie du sauveur, pour terminer cette deuxième partie. Donc, très caricaturalement, dans des formes et des degrés divers, le sauveur est quelqu'un de responsable, dévoué, généreux, extrêmement fiable, tourné vers les autres, attentif à leurs besoins. Il ne supporte ni l'égoïsme, ni l'indifférence. Pour lui, la souffrance de l'autre est intolérable, d'autant plus qu'elle constitue le reflet douloureux de sa propre souffrance. Sauf qu'il est souvent en colère, parce que l'autre ne se laisse pas sauver comme il devrait. Il critique, car il sait mieux que les autres. Il est anxieux, car il est en réalité totalement dépendant de l'autre. Il peut être un peu parano, il ne supporte aucune critique ni reproche. Il est même parfois tyrannique. Il doit être sûr de maîtriser la situation. Du coup, il peut arriver qu'il se vive dans le rôle de la victime, tandis que son entourage le vit comme persécuteur. En réalité, le sauveur cherche surtout à recevoir amour et reconnaissance, ce qui apporterait un peu de soulagement à sa souffrance personnelle, mais il s'y prend de telle manière que cela marche rarement. Globalement, on peut schématiser deux attitudes de sauveur selon le type de mission qu'il doit assurer pour être loyal. Donc il y a une position haute et une position basse. La position haute, il doit tout prendre en charge, éviter que l'autre ait le moindre désagrément ou sentiment pénible. Il est dans un activisme qui le rend corvéable à merci, facilement manipulable. Coupé de ses propres besoins, coupé de ses limites, il vit dans une tension permanente due à des contraintes internes. Mais quoi qu'il fasse, étant donné son sentiment de nullité, il est en proie à une culpabilité cruelle et tenace, même quand le bon sens proteste. Sa façon d'exister est de s'occuper de l'autre, même si celui ne demande rien. Voilà, ça va être de le guider, le conseiller, souvent dans l'intention de l'amener à changer selon sa vision des choses. Il ne supporte pas forcément bien que l'autre ne suive pas ses conseils. Il est sujet à l'épuisement. Il peut osciller entre un pôle de découragement et de désespoir. Donc découragement parce qu'il a une certaine conscience de l'impossibilité de sa mission. Et de désespoir, le devoir de loyauté est trop fort pour pouvoir s'en dégager. Et en même temps, il oscille aussi avec un pôle plus actif, voilà, qui est plus ou moins autoritariste, où il va tout tenter pour changer l'autre afin que celui-ci soit conforme au projet de la mission, ce qui lui permettra enfin de sortir de la culpabilité. Il y a dans ce cas beaucoup de colère, de reproches, de revendications qui sont dues à la frustration de la toute-puissance. Donc ça, c'était la position haute. Alors il y a aussi une position basse qui pourrait se formuler ainsi. Je sauve l'autre en le laissant me sauver, en le laissant croire que j'ai besoin de lui, qu'il m'est indispensable, ainsi il se sent utile et efficace. Cet effacement peut prendre des formes plus ou moins manipulatrices sous des apparences de soumission et de sacrifice. Voilà, le dominateur n'est pas toujours celui qu'on croit. Le drame du sauveur, c'est qu'il a une marge extrêmement étroite entre une exigence intérieure permanente et la revendication de ses besoins personnels, sous forme de troubles somatiques, de troubles de l'humeur et du comportement. Son éventuel comportement tyrannique est à la mesure des tensions internes qu'il vit à l'intérieur de lui-même. En fait, il est toujours au bord de la panique. Quand l'autre ne veut pas se laisser sauver, quand les circonstances le mettent en échec à accomplir sa mission, quand son organisme le trahit parce qu'il n'en peut plus de ses tensions, il frôle en permanence cet effondrement narcissique contre lequel il lutte depuis sa plus tendre enfance. Alors voilà pour ma deuxième partie. Alors on va continuer sur comment s'en sortir. Voilà, maintenant que j'ai dressé un peu ce profil, voilà, comment on peut s'en sortir si on est dans une relation comme celle-ci. Alors il y a déjà un enjeu de renoncement. Voilà, la situation sauveur-sauvé est inextricable. Il faut se sortir de là. Donc, renoncer au rôle de sauveur demande un triple positionnement. Déjà, il est indispensable d'affronter sa culpabilité à l'idée que si on ne sauve pas l'autre, eh bien, peut-être qu'il ira moins bien. Voilà, une deuxième chose, c'est de pouvoir vivre la crainte d'éventuelles représailles, si jamais on cesse de sauver l'autre. Et la troisième chose, c'est d'accepter de renoncer à la toute-puissance, d'accepter de rencontrer ses limites et son impuissance, au risque de revenir aux blessures précoces à l'origine de la situation de sauveur, et de renoncer à cette idée, à cette croyance erronée que si je ne peux pas tout, je ne peux rien, donc je ne mérite pas de vivre. Voilà, c'est complètement faux. Pour prendre ce risque-là, il faut avoir un bon contenant. Car il ne s'agit plus de sauver l'autre, ni de se faire sauver par l'autre, mais de se sauver soi-même, en sollicitant en soi, pour soi, les forces de vie sur lesquelles on s'est appuyé depuis toujours. Les qualités de compassion, de solitude, de compréhension, d'amour qu'on a développées au service de l'autre sont réelles, mais il s'agit maintenant de les mettre à son propre service, le temps nécessaire à notre propre restauration. Ce n'est pas facile. Renoncer à la position de sauveur, accepter d'affronter, de traverser, de vaincre la déloyauté et la culpabilité, voilà, relève de ce que Jung nomme l'héroïsme. Alors, je vais vous parler justement de ce mythe du héros, comme en parle Jung. Le mythe du héros, c'est le plus répandu et le plus universel. Il est présent dans toutes les cultures. Pour Jung, c'est un profil puissant de l'évolution de la psyché vers l'individualisation. C'est-à-dire, c'est prendre sa place pleinement, prendre pleinement sa place en tant qu'individu unique, voilà, différent de l'autre, avec ses propres besoins, ses propres limites. Il pose la nécessité de découvrir en soi les forces et les faiblesses, mais aussi les qualités insoupçonnées et insoupçonnables qui nous permettront de faire face aux tâches les plus ardues que la vie impose. Le mythe du héros contient en lui les différentes étapes du développement de la psyché humaine. Quitter la sécurité et les certitudes, faire un voyage intérieur constitué de rencontres inattendues, de confrontation et d'épreuves, lutter aussi contre les tendances régressives, etc. Le héros doit se rendre compte qu'il peut tirer une force de son propre côté ténébreux et négatif, qu'il peut triompher seulement s'il a maîtrisé et assimilé sa propre part d'ombre. Ainsi, le modèle constitué par la quête du héros peut être une référence importante pour toute personne qui souhaite donner un sens à sa vie. Alors, quelle vie après le Sauveur, quand on s'est dégagé, quand on a renoncé à cette forme de relation? Donc, je vous rassure, en se libérant de l'emprise de ce profil de Sauveur, on ne cesse pas de se préoccuper des autres. De la même manière, on ne perd pas les qualités acquises dans l'exercice du Sauveur tout au long de sa vie. Si notre complexe du Sauveur nous a mené jusqu'à l'exercice d'une profession de relation d'aide ou d'une fonction de relation d'aide, on ne sera pas pour autant contraint à changer de métier ou de fonction. Les valeurs et talents que nous avons développés sont réels et il s'agit maintenant de les mettre au service de l'autre de manière juste, sans porter atteinte à son intégrité ni à la nôtre. Cela demande une position d'humilité, en acceptant d'être un humain ordinaire, conscient aussi de ses qualités à assumer, que de ses limites à respecter. Pour cela, il est nécessaire déjà de différencier ses propres besoins des besoins de l'autre. Il est nécessaire aussi d'apprendre à laisser à l'autre ce qui lui appartient, sans avoir de projet pour lui, mais en l'aidant à clarifier et aboutir ses projets. Il est nécessaire enfin d'accepter de ne pouvoir sauver l'autre, accepter d'être simplement près de lui en l'accompagnant dans sa quête que lui-même définit. Donc entre la position du sauveur et l'indifférence, il y a la troisième voie, de l'accompagnement de l'autre dans l'exploration de son monde intérieur et la découverte des qualités qui vont lui permettre de mener à bien sa propre quête du héros. Mais pour cela, il faut avoir fait le chemin soi-même, découvert, mis en œuvre et agi ses propres qualités en se les appropriant totalement. Se donner les moyens de guérir et de s'épanouir dans une conscience nouvelle de soi-même et de l'autre enrichit et renforce l'amour.
Un grand merci Camille pour tout ce que tu viens de nous apprendre. Alors Camille, nous avons reçu un appel de Jacqueline.
Oui.
Bonjour Jacqueline.
Oui, oui. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Camille. Votre émission m'a vraiment interpellée parce que voilà, je suis veuve depuis bien longtemps et j'ai une fille qui a bien grandi et qui peut-être s'en est mieux sortie que moi. C'est ce que je ressens sur le plan global. Et elle a pensé un certain jour de l'année dernière, de 2016, que je n'arrivais plus à gérer mon argent, mon salaire. Donc, sans rien me dire, elle a pris ma mise, elle a fait en sorte que je ne puisse plus accéder à mon compte. Alors, je me disais, bon, moi, c'est une souffrance pour moi. Et pourtant, elle, pour elle, elle veut m'aider. C'est pour mon bien-être, c'est que pour m'aider à retrouver un certain niveau, retomber sur mes pieds. Mais moi, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est que elle aurait dû m'en parler, elle aurait pas dû faire ça comme ça. Je lui ai fait comprendre que je j'admettais son désir, sa façon de faire en ce sens de vouloir m'aider, mais bon. De la manière dont elle a procédé, pour moi, ça a été très dur. Et voilà, donc aujourd'hui, elle gère mon compte. Et pour l'instant, voilà, je n'ai pas voix au chapitre, c'est comme ça, tant que je ne serai pas arrivée à certains niveaux. Voilà. Donc, je voulais savoir, au travers de ce que j'ai entendu, cette relation de vouloir aider. Donc là, c'est la fille qui aide la mère. Comment je peux m'en sortir de ça
Oui, est-ce que... Alors, merci pour votre question. Merci, Jacqueline. Est-ce que vous pouvez discuter avec votre fille? Vous avez pu reparler de tout ça? Vous avez pu lui exprimer ce que vous avez ressenti? Comment vous avez vécu les choses?
Oui, mais pour l'instant, pour elle, c'est comme ça. Ce ne sera pas autrement.
Vous sentez que c'est un petit peu fermé, le dialogue?
Oui.
Je comprends votre souffrance. Ça doit être difficile. Et est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui connaît à la fois votre fille et qui vous connaît vous et qui pourrait vous aider à dialoguer ensemble pour mieux vous comprendre, pour...
Mais justement, moi, ma question, c'est ce désir d'aider, mais est-ce une façon réellement d'aider la personne en difficulté? Est-ce que vraiment, là, de sa façon, elle m'aide? Elle croit bien faire, peut-être, mais justement, est-ce que c'est bien ce qu'elle a fait? Pour vous, est-ce que c'est bien ce qu'elle a, sa réaction? Est-ce que ça a été correct d'avoir fait ce qu'elle a fait? Est-ce que c'était bien d'avoir fait, sans me prévenir, là, comme ça, de s'initier dans cette histoire? Vous croyez que c'est bien ce qu'elle a fait?
Alors, je ne connais pas suffisamment votre histoire, votre situation, pour pouvoir me prononcer. Ce serait trop délicat de donner un avis. Mais j'entends votre souffrance, et qui est légitime, qu'elle ait fait quelque chose sans vous le demander.
Oui.
Voilà. Oui. Ce qui me semble nécessaire quand on veut aider quelqu'un, c'est de pouvoir parler, de pouvoir se dire les choses.
Oui.
Et
oui.
C'est sûr que comme c'est quelque chose qui vous concernait vous directement, je connais pas bien la situation, mais comme ça, je me dis qu'il aurait été plus approprié, plus délicat pour vous de pouvoir vous en parler avant. Alors, il y a peut-être des raisons personnelles de son côté, de peur de votre réaction, je ne sais pas, qui l'ont conduite à agir comme ça, et c'est dommage.
Oui, elle avait peur pour elle aussi de se dire, certainement, toujours, il faut que être maman, il faut que... Voilà.
Oui, peut-être qu'elle se sentait pas à l'aise aussi dans ce rôle d'aide, qu'elle sentait qu'elle devait faire quelque chose, mais qu'en même temps, elle ne savait pas très bien, enfin... Parfois, on commet des maladresses, en fait, parce que on ne sait pas faire. Voilà, on n'a pas...
Je vais réessayer de parler avec elle, ou, comme vous avez dit, je connais une certaine personne, mais éventuellement, qu'on pourrait essayer d'en discuter. Je vais réessayer de revoir avec elle. Je verrai... Mais bon, c'est vrai que ça me met en souffrance, mais bon, si c'est ce qu'elle conçoit, elle, pour que, de ce point de vue, que je m'en sorte, ben voilà, je vais acquiescer, quoi, je vais vivre avec, je vais essayer de, en espérant qu'il arrivera bien un moment qu'elle me repassera les rênes, quoi, que je redeviendrai moi-même, que j'essaierai de... Voilà. Bon, bah, écoutez, désolée de vous avoir mis à
non, ça. Merci beaucoup pour votre question, Jacqueline, et puis bon courage à vous. Voilà, et n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses, et puis, si vous voyez que c'est trop difficile de parler directement avec votre fille, pourquoi pas de demander l'aide d'un tiers pour pouvoir vous entendre, vous comprendre l'une l'autre, vous mettre à la place. C'est pour rétablir le dialogue. Et puis,
Ok. Merci à vous, Camille. Merci à Radio Maria pour tous les beaux enseignements qui nous donnent au quotidien. Bonne journée à vous tous.
Merci à vous. Très bonne journée, Jacqueline. Au revoir.
Au revoir.
Merci, Jacqueline, merci. Alors, Camille, nous arrivons au terme de l'émission.
Oui.
Alors, quelque chose peut-être
alors,
à nos auditeurs pour conclure.
Une toute petite précaution que je pensais vous dire au début et que j'ai oubliée. Voilà, c'est vrai, quand on entend des enseignements de psychologie, on peut avoir tendance à se reconnaître. Je ne sais pas si ça a été votre cas pendant l'émission. Donc là j'ai parlé d'un profil d'une manière un peu pathologique, radicale. On peut tout à fait se reconnaître dans une tendance qu'on a tous parce qu'on est des humains, et sans que ça prenne une forme pathologique. Donc ne vous en inquiétez pas. Je me souviens de quand j'étais étudiante en psychologie, d'un cours où un psychiatre qui nous faisait un cours nous avait dit si vous vous reconnaissez un peu dans tous les profils, c'est que vous êtes équilibré. Et là, il y avait un grand soupir de soulagement de toute la classe. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci beaucoup, Camille. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.